7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la colère contre la vie chère en Afrique. Il faut se rendre à l'évidence, le coût de la vie est au centre des préoccupations des citoyens consommateurs. Or, les manifestations contre la flambée des prix, c'est un peu comme les manifestations étudiantes, on ne sait jamais où ça peut mener. Il suffit de regarder le Soudan où la révolution a commencé avec l'augmentation du prix du pain provoquée par la suppression des subventions publiques. Les consommateurs se plaignent aussi au Togo, au Mali, au Tchad, où le gouvernement a décidé de supprimer tout récemment la TVA et les droits de douane sur les produits de première nécessité pour faire baisser les prix, mais aussi au Zimbabwe où le prix du pain a plus que doublé, tout comme le prix des trajets en bus. Alors avec nos invités, on va voir à quelle réalité correspond ce ressenti des ménages, qui est le plus touché, quelle est la part de l'effet Ramadan aussi, puisqu'on est en plein Ramadan avec des prix qui augmentent mécaniquement à cause des festivités de la rupture du jeûne. Vincent Bonnecaze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du coût de la vie, notamment dans des pays comme le Burkina Faso, au sein du laboratoire Les Afriques dans le Monde à Sciences Po Bordeaux. On sera aussi en ligne avec Williams Deonoji Ngargoto, qui est membre du collectif contre la vie chère au Tchad. Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous surtout dès maintenant en nous appelant en direct où en est votre pouvoir d'achat. Au-delà des denrées alimentaires, vous pouvez bien sûr évoquer le coût du logement, du transport, de l'énergie, de l'éducation des enfants, de la santé. Appelez-nous pour parler de vos dépenses en direct, 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp où vous pouvez poster des messages.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Et tout de suite, un message de Klaus à Kinshasa en RDC, posté sur WhatsApp.
Au début de l'année, il y a eu hausse du prix des pains, par exemple, et des quelques denrées alimentaires de première nécessité. Même des carburants a haussé de prix. On s'adapte, hein? On se plaint, mais bon, quand les prix au marché augmentent, les gens ne manifestent jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'il y a hausse de prix, il n'y a que les pauvres qui ressentent cette hausse de prix. Mais ceux qui sont riches ici, vraiment, rassurez-vous que dépenser de l'argent pour un riche ici, c'est rien. Ça dérange pas, ils dépensent. Ici, c'est vraiment dur, hein. On continue à vivre comme ça, on subit.
Bonsoir, oui, chez nous, à Kinshasa, la vie coûte très très cher, très cher même. Un litre de carburant, c'est à 2500 francs. Un sac de riz ici, c'est à 25 000 francs congolais. On croyait qu'avec l'avènement du nouveau président à la tête de la République, peut-être les prix vont changer, mais on n'a rien constaté. Les dollars, c'est à presque 16 500 francs congolais, 10 dollars, c'est à 16 000 francs congolais. Donc les marchandises sont vraiment trop chères, même les unités. La vie coûte trop cher à Kinshasa.
Et puis je vous lis aussi d'autres messages postés sur nos réseaux sociaux. Gogoto qui est à N'Djamena au Tchad nous dit la vie à N'Djamena est très chère. Un litre d'huile coûtait 575 francs CFA, c'est-à-dire moins d'un euro. On est maintenant à 1600 francs CFA, c'est-à-dire à 2,43 euros. Un sac de riz de 50 kilos coûtait 35 000 francs CFA, c'est-à-dire 53 euros. Il coûte aujourd'hui 50 000 francs CFA, 76 euros, donc les 50 kilos. Au prix au marché de l'eau, le prix de l'eau est passé de 25 francs CFA à 50 francs CFA. C'est la même chose pour la viande. Le prix a doublé. Thomas à Yaoundé, alors évidemment hein, tout le monde veut donner des prix. Le panier de la ménagère, nous dit Thomas, au Cameroun est de plus en plus léger. Hein. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à parler de sachets de la ménagère. Le ministre du Commerce rencontre les commerçants pour alléger les prix des produits de première nécessité. nécessité, mais sur le terrain, on ne constate rien. Au contraire, les prix ne font que grimper. Alors Thomas nous cite la bière, 600 francs CFA. Aujourd'hui, 650 francs CFA, mais presque tous les débits de boissons vendent en réalité une bière à 800 francs CFA. Là aussi, on voit bien aussi qu'il y a des décalages entre ce qui est annoncé, entre la réalité. Et les hasards à Bangui, en RCA, nous dit que la particularité du panier de la ménagère en Centrafrique, c'est que la quasi-totalité du panier est importée. Mais il n'y a pas que la République centrafricaine où l'essentiel des produits de première nécessité sont des produits importés, Vincent Bonnecaze. Hein.
Oui, ce qui me frappe beaucoup dans ce qu'on vient d'entendre chez vos auditeurs et vos auditrices, c'est cette place des prix dans le mécontentement en général. Et c'est ce à quoi je m'intéresse. C'est pourquoi les prix aujourd'hui sont centraux dans le mécontentement dans un certain nombre de pays africains. Et ça, on le voit notamment dans le cadre de mouvements sociaux. Il y a eu en 2008 ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, alors surtout dans les journaux occidentaux, même si souvent dans les pays où ça s'est passé, on parlait beaucoup plus de mouvements contre la vie chère. Mais il y a aussi un mécontentement ordinaire. Et votre premier auditeur le dit. On ne manifeste jamais, mais on est mécontent. Et ce mécontentement, il faut aussi l'interroger au-delà de ce qui se voit le plus quand les gens y manifestent, y cassent. Il y a aussi un mécontentement même quand les gens ne manifestent
et
pas.
Et ça ne concerne pas que les produits de première nécessité, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, parce que Jackie aussi, Antananarivo à Madagascar, nous dit qu'il y a une corrélation entre le carburant et le coût de la vie. Plus les carburants montent, plus la vie devient difficile. Malik au Sénégal nous dit que le coût de la vie chez nous est inexplicablement cher, on n'arrive pas à manger à notre faim, c'est très difficile pour les pauvres. Ou encore Issou à Ouaga, au Burkina Faso, pays que vous connaissez bien, Vincent Bonnecaze, les denrées premières nécessités augmenteront toujours tant que les systèmes commerciaux des pays africains donneront la possibilité à un seul individu de monopoliser le marché du riz, par exemple. La solution serait de libéraliser ces types de marchés pour qu'il y ait de la concurrence.
Alors, vous dites deux choses là. D'abord, ça ne concerne pas que les denrées de première nécessité, c'est très important. Parfois, dans les pays européens, on a un peu une projection misérabiliste sur ce qu'on appelle les émeutes de la faim, comme s'il y avait une espèce de lien mécanique. On n'avait qu'à faire des gens qui étaient des ventes, qui avaient passé à manger. Il y avait un stimuli, on a faim et donc on se révolte. Évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et ce qui anime des révoltes ou des colères, c'est aussi des sentiments d'injustice. Par exemple, il y a aussi des mouvements, on appelait les mouvements de la lumière par rapport à l'électricité, qui est lié au fait que les pouvoirs publics n'éclairent pas les quartiers, ne donnent pas la lumière auxquels on a droit. Ou bien le fait que l'électricité ait une incidence pour toutes les personnes qui vendent des produits réfrigérés sur les marchés et qui, de fait de cette augmentation de l'électricité, ils vivent leur situation comme une dégradation parce qu'ils ne peuvent plus vendre ces produits-là, ils vont vendre des produits à tout venant dans la rue. Donc c'est important de penser que c'est pas seulement une affaire de faim et de pauvreté, mais aussi de dignité et de justice. Les personnes qui se révoltent, qui sont en colère, ils ont d'abord un sentiment d'injustice et c'est pour ça qu'elles sont en colère.
Est-ce qu'il y a, en tout cas, on a ce sentiment-là quand on reçoit tous ces messages de pays très différents, est-ce qu'il y a une convergence des luttes et des colères contre la vie chère aujourd'hui ?
Je dirais plutôt non. Je dirais que apparemment, elle peut exister chez les collectifs qui se coordonnent les uns les autres à l'échelle d'une sphère militante internationalisée. Mais la plupart des personnes qui expriment leur colère dans la rue, ou d'ailleurs on le voit avec vos premiers auditeurs qui se sont exprimés, ils font essentiellement référence à des réalités locales. Alors évidemment, les gens savent que ça se passe dans d'autres pays, mais je dirais que la colère, elle est extrêmement localisé
et
lié à des quotidiens.
Et les prix sont très différents d'un pays à l'autre, d'ailleurs.
Et les prix sont évidemment différents d'un pays à l'autre, même si on a affaire à des phénomènes conjoints. Par exemple, en 2008, l'augmentation des cours céréaliers internationaux a impacté en même temps l'ensemble des pays africains, ce qui a d'ailleurs créé un phénomène de conjonction de mobilisation sociale qui était peut-être la première fois dans l'histoire que ça se passait de manière aussi internationale.
Alors, la situation n'est pas aussi dramatique qu'en 2008, mais il y a bien une inflation, un retour de l'inflation depuis 2016 sur les prix sur le continent africain.
Tout à fait, les prix continuent d'augmenter. Ce qui est assez fascinant quand on compare la courbe des prix et en prix réel et les mouvements sociaux, on voit qu'il n'y a pas forcément de conjonction. Enfin, il y a un rapport, mais ce n'est pas une conjonction mécanique. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il y a des mouvements contre la vie chère, mais qui ne sont pas coordonnés, là, il y en a au Zimbabwe, il y a quelques mois, il y en avait au Niger, aussi au Soudan, comme vous en avez parlé dans votre entrée. C'est moins spectaculaire que les émeutes de la fin de 2008, mais ça ne veut pas dire que les prix ne continuent pas à augmenter. Il n'y a pas un rapport mécanique entre la révolte et l'augmentation des prix. Donc les prix continuent à augmenter, même si parfois des gens ne se révoltent pas.
L'effet Ramadan, un de nos auditeurs nous en parle, Kevin à Cotonou, il nous dit qu'il y a toujours une hausse des prix durant le mois de Ramadan, ça on le sait, on le traite d'ailleurs souvent sur RFI. Les marchands profitent de ces périodes de l'année pour faire un peu plus de profit. Riz, maïs, céréales et surtout les fruits qui deviennent encore plus chers. Il n'a pas cité le sucre, hein, mais évidemment, c'est central. Ce qui est le plus énervant, nous dit Kevin, c'est que même ceux qui ne sont pas musulmans en souffrent. L'effet Ramadan, il pèse quoi, finalement ?
L'effet Ramadan, c'est que avant chaque...
Dans les prix et dans le sentiment d'injustice.
Bien sûr, ouais. Avant le carême, la plupart des familles qui vont pratiquer le ramadan vont augmenter leur consommation de sucre parce qu'à la rupture de jeûne, on va à la fois distribuer le sucre du ramadan dans les cours voisines et aussi faire des mets sucrés pour la rupture du jeûne. Donc il y a un phénomène d'augmentation des prix lié à l'augmentation de la demande, mais aussi un phénomène de spéculation lié au fait que c'est une opportunité pour les personnes qui commercialisent le sucre. Et ce qui est assez fascinant avant les mois de Ramadan, c'est que le prix du sucre est vraiment un sujet de discussion qui anime musulmans et chrétiens sur quelque chose qui n'est pas juste. De gens qui en profitent et de gouvernements qui ne font pas leur travail de permettre aux personnes qui pratiquent le mois de Ramadan de rompre le jeûne dans des bonnes conditions. Donc il y a à la fois une réalité...
Sous-entendu qu'il n'y ait pas un réel encadrement des prix à cette période-là ?
Exactement. Mais cela dit, la plupart des gouvernements annoncent justement un encadrement des prix avec rarement des mesures de défiscalisation, mais souvent des ententes qu'on ne voit pas forcément avec les principaux importateurs ou producteurs de sucre, qui fait qu'ils essayent de diminuer les prix. Donc le prix devient un sujet à la fois du gouvernement, à la fois dans la rue en disant le gouvernement ne fait pas son travail, à la fois dans les journaux. Et on voit qu'il y a là aussi encore beaucoup de sentiments d'injustice qui s'expriment autour de ce prix du sucre au moment du mois de Ramadan.
Alors, on va parler de la situation du Tchad. On est en ligne avec Williams Deonoji Ngargoto. Bonjour.
Bonjour.
Williams, vous êtes chargé de sensibilisation au collectif contre la vie chère au Tchad, qui est une association de la société civile. Je vais vous lire un message d'un de vos compatriotes, Mustapha, qui est étudiant tchadien, mais il étudie au Bénin. Il nous dit, avec le décret du gouvernement tchadien, le prix des denrées alimentaires a chuté d'un seul coup, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Ma famille a fait des achats au marché, la décision est appliquée, mais ce qui me fait mal, c'est que cette décision est temporaire, 45 jours seulement. Je demande au gouvernement tchadien de maintenir ce décret. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce message et comment vous, en tant que collectif contre la vie chère au Tchad, qu'est-ce que vous pensez des annonces du gouvernement d'exonérer, je le redis, ce que j'avais dit en introduction, donc d'exonérer les produits de première nécessité, farine, riz, huile, pâte alimentaire, entre autres, d'exonérer donc de la TVA et des droits de douane, ce qui doit effectivement mécaniquement faire baisser le prix. Par exemple, sur le riz et la farine, on a 5% de droits de douane. Sur l'huile et les pâtes, on a 30% de droits de douane. Alors, est-ce que déjà on voit les prix baisser et qu'est-ce que vous en pensez ?
Ok. Par rapport à cette décision du gouvernement, je pense que cette décision est louable. Mais maintenant, ce qui reste à savoir... est-ce que sincèrement ça sera appliqué? Le message de mon compatriote qui vient de l'envoyer comme quoi sa famille a fait des achats et que du coup, après la prise de cette décision, les prix ont baissé. Moi, je pense que ce n'est pas vrai parce que véritablement, les commerçants attendent l'application de ce décret qui vient de l'arrêté ministériel qui a été pris par décision du chef de l'État. Et donc, vu que le président de la République a déjà lancé la nouvelle la semaine dernière avant la prise de la décision, les commerçants ont retardé leur importation. Et donc, à ce niveau, certainement, c'est quand l'importation de leurs produits va d'abord arriver au Tchad et qu'ils vont constater que réellement les plus hautes autorités ont mis en application la décision. C'est en ce moment qu'ils vont véritablement baisser les prix. Et donc, pour jusqu'à ce jour où je vous parle et à l'heure où je vous parle, les prix n'ont pas encore baissé au marché. Les prix sont restés intacts. Donc,
parce que les commerçants n'ont pas encore acheté les produits à défiscaliser. C'est ce que vous semblez dire.
Ils n'ont pas encore acheté les produits défiscalisés. Et les produits qu'ils détiennent en ce moment sont des produits fiscalisés. Et donc, si du coup, ils essayent de baisser les prix de ces produits, eux, ils vont perdre. Et donc, un commerçant ne va pas directement appliquer une décision du moment où la décision vient d'être appliquée. Et du coup, au niveau du marché, il doit baisser les prix. Et là, à mon avis, ça ne peut pas les avantager. Et donc, sur le marché, les produits ne sont pas encore baissés. Ne sont pas encore baissés. Parce que jusqu'à hier, à écouter le ministre des Finances parler après la réunion qu'ils ont organisée à la présidence de la République, il était question que les produits importés par les commerçants sont stationnés encore au niveau de Douala. Et donc, ces produits, en attendant la prise de la décision lancée par le président de la République. Et donc, la décision a été déjà prise. Alors, c'est en ce moment, jusqu'à la semaine prochaine, espérons, que les produits les produits de première nécessité qui font partie de la décision doivent être défiscalisés. Et c'est lorsque ces produits ont été défiscalisés que les commerçants doivent prendre en compte la décision et baisser les prix sur le marché. Donc, à l'heure où je vous parle, les prix sont pas encore baissés sur le marché.
Vous nous parliez du port de Douala, juste pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs, puisque l'essentiel de ces produits de première nécessité arrive par le port camerounais, donc transite par le Cameroun. Ce sont des produits importés. Qu'est-ce que ça pose comme question de fond, finalement, par rapport à cette augmentation du coût de la vie au Tchad?
Selon les commerçants, c'est la surfacturation des droits de douane et même d'impôts qu'ils payent. Du cordon douanier jusqu'à l'intérieur du pays. Vous allez imaginer que le produit venant du port de Douala arrive à Kousséri, il traverse le pont, il arrive à Guéli, il faut que ces produits puissent être dédouaniers. Et en ce moment, quand ils sont dédouaniers, on essaie de mettre ça sur le marché. En mettant sur le marché, comme le commerçant exerce une activité générative qui est devenue à l'intérieur, il essaie de payer les impôts, il est à l'impôt général migratoire. Il est aussi au niveau de RSI ou bien du réel, et donc en ce moment-là, il doit payer les versements spontanés tous les mois et tout ça. C'est ce qui fait que le commerçant est obligé d'incorporer les droits des douanes et même de TVA ou bien d'impôts à payer au niveau de l'intérieur sur ces produits pour qu'il puisse au moins gagner de ce qu'il fait, ce qu'il exerce comme actif.
Ainsi que de nombreux surcoûts d'acheminement, finalement, hein, pour un pays enclavé. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Vincent Bonnecaze, sur finalement un problème structurel qui agit mécaniquement sur les prix?
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais réagir à d'autres choses sur ce qu'a dit monsieur. Déjà, ce qui me frappe, c'est qu'il parle de mesures qui ne sont pas appliquées parce que les commerçants peuvent retenir des stocks ou parce qu'ils ont des stocks qui n'ont pas été défiscalisés. Mais il me semble qu'il y a aussi des gens qui disent qu'il y a une marge de manœuvre très forte des commerçants quand il y a des mesures de défiscalisation, tout simplement pour dire que c'est des stocks anciens, même s'ils sont nouveaux, de jouer avec ça. Et au-delà de ça, ce qui pourrait passer pour quelque chose quelque chose de pas si important, c'est que ça parle de quelque chose de plus fondamental qui est l'impression qu'il y a un grand pouvoir commerçant lié au pouvoir politique. Et ça, c'est quelque chose, alors je n'ai jamais été au Tchad, monsieur, mais en tout cas dans les pays limitrophes, qui est très très présent. Le fait que quand on parle de pouvoir, quand on parle de gouvernement, on va parler à la fois des ministres, mais aussi des grands importateurs, parce qu'on est souvent dans des structures oligopolistiques où les marchés des denrées comme le riz sont maîtrisés par 4 ou 5 importateurs dans une situation
qui monopolise le marché du riz, comme le disait cet auditeur Issouf à Ouagadougou.
Même si officiellement il n'y a pas de monopole, c'est-à-dire que dans le discours de ces commerçants, c'est juste des économies d'échelle qui peuvent s'imposer sur le marché. Mais dans l'esprit des personnes, et ça renvoie de les réalités, il y a des entendements qui fait que cette position de force est liée à au lien avec les pouvoirs publics. Et je dirais que dans beaucoup de pays africains, il y a ce qu'on appelle gouvernement, c'est la fois un mélange d'acteurs privés et publics qui, de fait, ont une incidence très très forte sur la vie quotidienne, ce qui est vrai, ce qui est vrai.
Williams Adeonojin Garguto, quelle est la responsabilité des grands commerçants à l'heure actuelle sur la hausse des prix qui n'a cessé ces dernières années?
Non, leur responsabilité est avérée parce que les commerçants, généralement, ils négligent un peu les décisions prises au niveau de l'État. Mm. Et donc, et en plus de cela, il faut savoir que parmi ces commerçants, c'est les plus utiles, c'est certains dignitaires ou bien baobab de ces pays qui prêtent simplement le nom de leurs parents pour essayer d'exercer des activités génératives de revenus également. Et donc, ce qui fait que parfois, ils peuvent prendre une décision, mais du moment où ils essayent de comprendre que la décision va à l'encontre de leur intérêt, ils n'essayent pas d'appliquer véritablement la décision. Ils décident même l'État jusqu'à preuve du contraire par rapport à la décision que l'État essaie de prendre pour améliorer le panier de la ménagère. Et donc, en ce moment, vous allez voir qu'au Tchad, il est difficile de prendre une décision et en même temps de l'appliquer au niveau des commerçants, parce qu'il y a des commerçants qui sont heureux. Ils se disent que non, eux, ils ont investi de l'argent. Et donc, en retour, ils doivent gagner. Ils ne peuvent pas écouter, par exemple, les peurs de la population, comme quoi la vie est chère et tout. Mm-hmm. Donc, pour eux, c'est d'abord leur intérêt. Ils vendent en perte, ils ne peuvent pas le faire. Ou bien vendre et gagner, ne serait-ce que le juste, ils ne sont pas d'accord. Parfois, ils peuvent vendre à double, à triple,
le juste prix, comme vous dites. Alors, on a beaucoup parlé des denrées alimentaires, les denrées de première nécessité, mais au Tchad, on se plaint aussi de l'augmentation du prix de l'essence, des mototaxis, de l'énergie avec la pénurie de gaz. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Aujourd'hui, on peut dire que par rapport à la pénurie de gaz, la situation a été un peu améliorée. Et donc, aujourd'hui, il y a des files d'attente dans les points de vente de gaz. Mm. Pour cela, on peut dire que ça s'est amélioré. Et le prix se vend, comme d'habitude, à 2000 francs la petite bouteille de gaz. Maintenant, en ce qui concerne l'essence également, c'est au prix fixé, donc à 518 francs le litre de l'essence. Maintenant, il faut savoir que là où le bas blesse, c'est que les mototaxis qui exagèrent un peu en ce qui concerne le déplacement d'un client d'un point à un autre. Parce que vous imaginez, vous quittez un quartier, oui, chaque voie qui doit être véritablement à 7 km du centre-ville, mm-hmm, 7 km du centre-ville, mais à ce moment, pour vous déplacer, il faut payer 1000 francs.
1000 francs pour parcourir 7 km, 1000 francs CFA, 1,50 €. Vous semblez dire finalement que les mototaxis profitent du fait que les citoyens, les consommateurs n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ces mototaxis, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un véhicule, parce que les transports, les bus sont encore moins efficaces.
Oui, les bus sont encore moins efficaces et puis c'est vraiment étouffé parce que vous êtes entassés comme des sardines sur une place où vous devez être à seul. On vous met à deux, là où vous devez être à trois, on vous met à quatre, cinq. Mm. Donc en ce moment-là, pour question de d'être à l'aise et puis aller tranquillement au boulot et tout ça, les gens préfèrent prendre le mototaxi, même si c'est cher, pour arriver plus vite au bureau et puis passer à leur occupation tout tranquillement.
Aujourd'hui, la vraie question, c'est l'augmentation des prix ou c'est le problème des salaires, d'autant plus avec la diminution du salaire des fonctionnaires qui est intervenue au Tchad? Parce qu'on a l'impression que maintenant, on focalise beaucoup sur la hausse des prix.
Oui, mais bien avant même la diminution des salaires des fonctionnaires, la vie est très chère et extrêmement chère au Tchad. Il faut noter cela. Maintenant, avec cette diminution, nous espérons que les prix des marchandises vont diminuer, puisque avant que l'État ne puisse penser diminuer le salaire des fonctionnaires, ils doivent faire un travail de terrain. Et donc, essayer de diminuer les taxes au niveau des denrées de première nécessité pour que les commerçants puissent prendre ça en compte, diminuer aussi les prix avant de diminuer le salaire. Et en ce moment, on peut comprendre qu'il y aura le juste prix à ce moment. Un fonctionnaire peut vivre, ne serait-ce que avec ceux qui viennent.
Alors un dernier mot, Williams Deonoji Ngargoto, parce que la ligne téléphonique est en train de vous perdre. Qu'est-ce que vous demandez, vous, avec votre collectif contre la vie chère, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on demande véritablement l'application de la décision, c'est-à-dire l'arrêté ministériel qui a été pris récemment pour exonérer les droits de douane et du CVAS, les produits de tunnel.
Pour que les marchandises défiscalisées arrivent enfin au Tchad et qu'il y ait une vraie répercussion, une vraie baisse des prix, on peut l'espérer, appliquée par les commerçants, hein, si j'ai bien compris.
Voilà, bien.
Merci beaucoup, Williams Deonoji Ngargoto. Vincent Bonnecaze, à propos des salaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la grogne sociale, elle s'est déportée vers cette hausse des prix.
Complètement. Alors, c'est assez fascinant, cette histoire des salaires, parce que historiquement, le salaire a une place très importante dans l'expression du mécontentement, en tout cas dans les sociétés urbaines en Afrique de l'Ouest, pour parler des pays que je connais. Déjà, à la fin de la période coloniale, il y avait des grandes mobilisations pour l'égalité salariale à l'époque où il y avait un traitement racialisé du salaire. C'est-à-dire que les Blancs gagnaient beaucoup plus que les Noirs, pour parler des catégories utilisées par les pouvoirs coloniaux, pour le même type de travail. Donc le salaire a animé un sentiment d'injustice et beaucoup de mobilisation sociale, quand bien même il y avait très peu de salariés dans ces sociétés-là. Même si on continue dans l'histoire, après l'indépendance, il y a eu un grand espoir dans les villes qu'avec l'indépendance et l'augmentation des niveaux de vie, il y aurait de plus en plus de postes de salariés. Il y avait beaucoup de personnes qui espéraient devenir salariés. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans un monde libéral où il y avait encore beaucoup d'espoir dans un certain nombre de villes de devenir salarié. Même dans les années 90, après la dévaluation du franc CFA qui a provoqué une diminution, une augmentation des prix extrêmement violente dans les pays d'Afrique de l'Ouest, de la zone CFA et de l'Afrique centrale. Quand on regarde les tracts syndicaux de l'époque, ils demandent encore une augmentation des salaires pour compenser l'augmentation des prix. Aujourd'hui, ça s'était porté vers la question des prix, déconnecté de la question des salaires. Et finalement, c'est prendre acte qu'on vit dans des sociétés extrêmement libéralisées où, de fait, l'action des pouvoirs publics et l'action de ce qu'est le pouvoir passe bien plus par les prix et que par les salaires. Et je dirais, si je peux me permettre de comparer et parler de la France, ce qui se passe actuellement en France, c'est quelque chose de complètement fascinant avec le mouvement des Gilets jaunes. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, dont peut-être vos auditeurs et vos auditrices ont, j'imagine,
oui,
entendu
en
parler
ont,
beaucoup.
Je vous rassure, largement. Oui.
Si vous parlez aussi de la France et RFI, c'est parti d'une grogne liée à l'augmentation des carburants et exactement ce que disent vos auditeurs et vos auditrices.
Exactement, j'allais vous poser la question sur la synergie avec le mouvement des Gilets jaunes.
En tout cas, comparaison, c'est quelque chose qui est totalement fascinant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de manifestations dans les sociétés européennes sur la question des salaires, des revenus de manière générale et du travail. Mais on peut très bien imaginer que, parce qu'on vit également dans une société extrêmement et de plus en plus libérale, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il y a des anthropologues qui disent ça, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en avance sur le reste du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser intelligemment le monde si on regarde pas d'abord ce qui se passe en Afrique, parce que finalement, c'est aussi notre avenir aussi, ce qui se passe en Afrique. Donc je trouve ça vraiment fascinant, c'est trop tôt pour poser évidemment des conclusions définitives, mais de voir qu'il y a des mouvements sociaux en Europe qui présentent une forte similarité avec ce que j'ai pu observer en Afrique il y a quelques années.
Alors vous nous appelez les voisins et les voisines pour nous dire comment vous vivez votre pouvoir d'achat dans votre pays, 33 1 84 22 71 71. On reste donc focalisé sur le continent africain et pour la bonne raison que vous venez d'énoncer, Vincent Bonnecaze. Nous accueillons un auditeur, Amadou, qui est à Dakar. Bonjour Amadou.
Bonjour.
On vous écoute, Amadou.
Super, tiens. D'accord.
Vous êtes en direct, Amadou, nous vous écoutons.
Oui, voilà. En fait, moi, bon, j'avais appelé. C'est pour vous expliquer un peu sur notre situation, je pense, au Sénégal ici. Bon, parce que moi, je trouve que quand même les prix sont assez maîtrisés quand même. Parce que quoi qu'on puisse dire, ça fait 3-4 ans quand même qu'on a pratiquement connu que des baisses sur les prix, sur les denrées de première nécessité. Comme pour le dire, que ce soit l'huile, le pain, le sucre, le carburant même a baissé. l'électricité s'est abaissée.
Mm-hmm.
Bon, que la personne trouve que, bon, que le prix est cher, ça, bon, je peux le concéder. Mais quand même, on n'a pas eu de flambée. Il n'y a pas de flambée, pas qu'on puisse dire.
Mm.
Franchement, c'est le constat que j'ai fait, c'est ce que je dis aussi, donc voilà. Bon, je pense que c'était nécessaire de le dire même. Je pense que, parce qu'il y a quelques jours, les boulangers voulaient même faire une augmentation, ils ont fait une grève pour que
les boulangers,
oui. Oui, oui, les boulangers au Sénégal, ils ont fait une grève ici. De 3 jours pour exiger que l'État leur laisse augmenter le prix du pain, mais l'État est digne. Bon, et après, ils se sont retrouvés sur des concertations. Bon, finalement, ils ont pu trouver des solutions pour maintenir le prix quand même.
Mmh.
Voilà.
Oui,
on sent qu'il y a, bon, il y a l'État derrière quand même qui suit et puis essaie de se battre aussi pour que les choses ne bougent pas dans le mauvais sens. Bon, d'un autre côté, on peut que il y a la concurrence aussi sur certains produits. Maintenant avec les supermarchés et tout, et ça aide beaucoup le consommateur, ça aide le consommateur parce que quand même on ne vit plus vraiment ce que les commerçants font avec nous là, c'est-à-dire augmenter les prix, que ce soit quand le ramadan vient, les fêtes religieuses, des trucs comme ça. Bon, sur les certains supermarchés on trouve des prix fixes pendant toute l'année, donc
Les supermarchés Amadou qui étaient il y a encore quelques années largement réservés à une élite, voire à des expatriés comme on les appelle, aujourd'hui effectivement sont carrément rentrés dans le dur, hein, dans la guerre des prix. Et vous avez la possibilité, vous les consommateurs, de finalement de faire jouer la concurrence et de comparer assez facilement les prix. Merci beaucoup Amadou de nous avoir appelé pour nous faire part de votre sentiment. C'est vrai que la situation du Sénégal n'est pas forcément comparable avec le Tchad qu'on évoquait. Pour vous, Vincent Bonnecasse, comment se situe un pays comme le Sénégal ?
D'abord, ce que vient de dire votre auditeur, c'est que chaque situation et chaque ressenti, même à l'intérieur d'un pays peut-être différent, peut-être qu'il y a des gens au Sénégal qui sont en train de bondir en écoutant RFI, en disant « mais c'est pas vrai, les prix augmentent ». Et ce qui n'invalide pas du tout ce que vient de dire votre auditeur, c'est son ressenti. Mais
alors, il y a quand même ressenti et puis les chiffres.
Il y a aussi les chiffres. Tout à fait. Et votre auditeur, je ne connais pas les chiffres du Sénégal, mais voilà, il les connaît évidemment mieux que vous et moi. Ce qui est intéressant au Sénégal, c'est qu'il y a le mouvement Yonamar, dont vous avez certainement beaucoup parlé, et les mesures qu'ont citées votre auditeur sont aussi liées à des mouvements sociaux. C'est-à-dire que les mesures de baisse des prix, souvent, ne sont pas des mesures purement économiques face à la situation économique, mais qui sont aussi devenues des mesures pour calmer la colère sociale. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut expliquer aussi cette situation sénégalaise.
Alors, pouvoir d'achat et colère sociale, on en parle avec vous, Vincent Bonnecasse, et bien sûr, vous nous appelez pour nous parler de votre pouvoir d'achat, de la réalité des prix, peut-être aussi de certains produits qui ont baissé quand même, hein, notamment la connexion Internet. Hein, sa personne nous appelle pour nous dire que ça a baissé, mais ça a beaucoup fait baisser le prix de la communication téléphonique, parce que quand on s'appelle sur WhatsApp, ça coûte beaucoup moins cher. Mais tout ça, comment ça se traduit dans votre budget ? Est-ce que pour autant, quand il y a des prix en baisse, vous avez plus de pouvoir d'achat, c'est pas évident. 33 1 84 22 71 71 7 milliards de voisins, on est en direct. I wanna be vegan. You wanna be vegetarian. You wanna be vegan. They wanna be vegetarian. Tu ne veux pas aller au marché. Marcher au marché, tu préfères faire la glace martinée. Oh la ilo, la ilo, oh la ilo, la ilo, oh la ilo, la ilo. Asmat Vodougem chez 7 milliards de voisins. On est en direct du lundi au vendredi sur RFI. Aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat et puis surtout de la révolte contre les prix chers. Vous nous le disiez, Vincent Bonnecasse, en Afrique, il n'y a pas de convergence des luttes. Néanmoins, on voit bien que partout sur le continent africain, des révoltes de consommateurs citoyens s'organisent plus ou moins d'ailleurs à la faveur des autorisations de manifester ou pas d'ailleurs.
Oui, alors je dirais qu'il n'y a pas plus de convergence des luttes qu'en Europe. Il y en a aussi, mais pas plus qu'en Europe tout simplement. Parce qu'il y a quand même des collectifs qui sont en contact les uns avec les autres.
Et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait une similitude intéressante avec le mouvement des Gilets jaunes et que peut-être en Europe, demain, on aura les mêmes révoltes contre la vie chère. Qui sait ? En tout cas, vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 60. 71. Une voisine, Momi, qui est à Niamey, nous dit que depuis la loi de finances de 2018, le panier de la ménagère a augmenté. Avec 1 000 francs CFA, c'est-à-dire 1,50 euros, on pouvait faire manger sa famille correctement. Aujourd'hui, avec 1 000 francs CFA, toujours les mêmes 1 000 francs CFA, on ne peut pas manger correctement. Les gens souffrent, mais aussi les commerçants qui doivent payer leur emplacement au marché et leurs taxes. Il y a deux semaines, le kilo de pommes de terre était à 250 francs CFA, 38 centimes. Aujourd'hui, 600 francs CFA, donc ça a plus que doublé. La glace à rafraîchir aussi a doublé de prix. C'est passé de 100 francs CFA à 200 francs CFA. C'est le cas aussi au Tchad, hein, où le prix augmente de la glace à rafraîchir, qui est très important pour conserver les denrées alimentaires. Donc, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle les denrées de première nécessité, comme la farine, le sucre, l'huile. Mais c'est tout aussi important. Je vous lis aussi le message de Brice à Yaoundé, au Cameroun. Il y a eu, alors que pour les Tchadiens, le Cameroun se porterait plutôt mieux, question prix, hein, Vincent Bonnecasse, les prix sont moins élevés du fait que il y a l'ouverture sur la mer et que les produits arrivent par le port. Au Cameroun, il y a une augmentation de certaines denrées, les boissons alcoolisées, le riz, le poisson. Le ministère du Commerce a pris une mesure pour que les prix de ces denrées soient encadrés. Une autre mesure a été décidée pour que chaque commerçant ne puisse pas augmenter les prix comme il le veut. Si le tarif est au-delà du prix autorisé, le client a le droit d'aller se plaindre aux agents de l'État. Vincent Bonnecasse, il y a des pays où les prix sont très encadrés, d'autres où ils le sont moins ou pas du tout. Finalement, aujourd'hui, on avait cet auditeur au Sénégal qui nous disait mais ce qui marche, c'est qu'on puisse nous-mêmes comparer les prix et que les supermarchés cassent les prix, par exemple.
Disons que dans la plupart des pays africains, il y avait des politiques d'encadrement des prix qui dataient d'ailleurs de la période coloniale, avec législations qui fixaient les prix d'un certain nombre de denrées locales ou qui limitaient les marges bénéficiaires pour les produits importés. Ça, c'était un premier dispositif. Il y avait aussi des magasins d'État qui vendaient des produits à prix fixe. Et il y avait des systèmes de monopole qui étaient accordés officiellement à des commerçants et qui, du coup, étaient tributaires des pouvoirs publics pour fixer les prix. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu, ou en tout cas, ça s'est profondément atténué avec la libéralisation des années 1990. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas toujours des ententes entre des commerçants qui sont en position oligopolistique et les pouvoirs publics. Et ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est que le libéralisme, la concurrence dans cette situation libérale devient une revendication de gens qui souffrent de la vie chère, en disant il faut mieux une concurrence où il n'y a pas des gens qui s'entendent tacitement avec les États et profiter en fait de leur position de force pour pratiquer les prix qu'ils veulent, et une concurrence qui diminue les prix. Et ça, finalement, ça ne veut pas dire que les personnes adhèrent forcément aux idées libérales, mais que dans cette société, dans ce monde libéral dans lequel on vit, une concurrence vaut mieux que des accords tacites cachés.
Ouais. Alors bon, on parle beaucoup des commerçants, enfin, des gros commerçants, hein, puisque c'est ce qui compte pour les consommateurs. Ce seraient eux aussi les responsables en partie de la hausse des prix. Un témoignage d'une vendeuse à Kinshasa, Madia, on n'a pas pu la voir au téléphone, la ligne téléphonique. Les lignes sont très mauvaises ce matin. Je ne sais pas pourquoi, un peu partout sur le continent. Mais voici ce que nous dit Madia. La variation des prix me complique la vie parce que si je ne vérifie pas chaque jour les prix de gros, je risque de vendre à perte en ayant à utiliser mes bénéfices pour racheter de la marchandise. Donc effectivement, pour les commerçants aussi, les temps sont durs quand ce ne sont pas de très très gros commerçants.
Totalement. Alors si je peux réagir là-dessus, c'est, dans un certain nombre de mouvements contre les vies chères, les petits commerçants ont joué un rôle essentiel parce qu'il y a certains mouvements en 2008 qui sont sont partis d'émeutes, qui ne sont pas partis d'organisation, mais plutôt d'émeutes. Et c'est des collectifs moins visibles qui ont suscité en fait ces émeutes. Et notamment les collectifs de petits commerçants qui étaient excédés par rapport au fait qu'ils ne gagnaient pas leur vie. Et pourquoi ? Parce que les petits commerçants, eux, ont très peu de marge de manœuvre sur leur prix. Quand un prix importé, le coût d'un produit importé change parce que le coût de revient ou parce que la marge bénéficiaire de l'importateur augmente, le petit commerçant, il est toujours confronté à une clientèle qui n'acceptera pas d'augmenter le prix de vente. Et lui, du coup, c'est sa marge bénéficiaire qui va diminuer. Et c'est quelque chose d'assez... Alors, en Europe, il y a des tas d'images d'Épinal de l'Afrique, où à la fois, on est dans un monde libéral, où du coup, il n'y a pas de prix fixe, mais en plus, où tout se négocie. C'est un peu l'image d'Épinal que beaucoup de Français ou de Françaises ont de l'Afrique. En fait, même pour des produits qui ne sont absolument pas fixés par l'État, il y a des variations beaucoup plus faibles dans un bon nombre de pays africains. Que en Europe, où personne n'acceptera de payer, par exemple, je ne sais pas moi, le Nescafé à Ouagadougou, 75 francs, alors que tout le monde va le payer 50 francs CFA. Parce qu'il y a une attente morale, en fait, sur ce qu'est le prix juste, qui est très forte, et qui pèse aussi sur le cours de ces produits-là.
Est-ce qu'on peut dire globalement, en tout cas c'est ce que dit la Banque mondiale, c'est que finalement le coût de la vie en Afrique est beaucoup plus élevé qu'en Europe ?
Si on appelle par coût de la vie ce qu'on peut acheter, évidemment, évidemment.
Il y a aussi une pratique qui intervient depuis quelques années, qui est mécanique. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas beaucoup de cash dans la poche, on achète de plus en petite quantité les denrées alimentaires, surtout celles qui se... Autrefois, le riz, on l'achetait par des gros sacs, hein, puisque ça se conserve. On achète le riz maintenant par petite quantité.
Tout à fait. Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des personnes qui m'expliquaient leur sentiment de dégradation des conditions de vie à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, notamment avec un ami Mouni, qui j'espère m'écoute actuellement et que je voudrais saluer très chaleureusement.
Eh ben, vous êtes là pour ça, profitez-en.
Et qui était un enquêteur absolument fantastique avec Biba, sa conjointe. Et c'est vrai que beaucoup de personnes dans lesquelles des entretiens donc que nous avons menés, beaucoup de personnes disaient que leur sentiment de dégradation, c'était des conditions de vie, c'est non seulement que les prix avaient augmenté, mais que autrefois ils pouvaient acheter le sac de riz de 50 kilos et après consommer selon leurs besoins pendant le mois. Alors que de plus en plus, les gens vont acheter à la tasse ou à la tine parce qu'ils n'ont pas les moyens d'anticiper. Ce qui ne veut pas dire qu'ils mangent moins d'un point de vue calorique, mais qu'ils ont tout simplement beaucoup moins de maîtrise sur leur quotidien, qu'il y a plus d'appréhension, beaucoup plus aussi de sentiment d'injustice à travers des pratiques extrêmement concrètes, comme le fait de ne plus pouvoir acheter le sac de riz en gros, mais seulement un petit peu de riz à la tasse chaque jour.
Ça veut dire qu'on le paye plus cher au kilo dans ces cas-là, forcément ?
On ne paye pas forcément plus cher au kilo, mais y a juste une incertitude au quotidien qui fait qu'on n'est pas sûr de pouvoir l'acheter le lendemain.
Dans les pays développés, plus vous achetez en petite quantité, plus vous payez cher. C'est mécanique, notamment dans les aliments transformés.
C'est pas systémiquement le cas, en tout cas au Burkina Faso ou au Niger.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des produits locaux ? Vous avez beaucoup travaillé sur le riz. Alors, c'est quoi aujourd'hui la problématique du riz, le riz importé, le riz local ? Est-ce que ça serait plus intéressant pour les consommateurs d'acheter du riz local ? Est-ce qu'il est réellement moins cher ? Comment ça se joue par rapport au prix et au pouvoir d'achat ?
Sur le riz, déjà, juste une réalité qui est extrêmement interpellante, c'est qu'aujourd'hui, quand on produit du riz local dans un certain nombre de pays africains, on va le vendre plus cher sur le marché que le riz qui est importé de Thaïlande. Et ce qui évidemment crée des soucis économiques et politiques très très fortes. Alors cette réalité-là, elle est en train d'évoluer. Dans les années 90, les importations de riz ont extrêmement augmenté avec les politiques de libéralisation. Et c'est vrai qu'après la crise de 2008, la crise alimentaire mondiale, et vu les mouvements sociaux qui se sont déroulés à ce moment-là, un certain nombre de gouvernements africains ont développé une politique de soutien à la production locale, à la fois pour la développer et aussi pour la rendre moins chère, de telle sorte à ce que leur pays soit beaucoup moins dépendant de l'évolution des cours céréaliers internationaux. Aujourd'hui, un pays comme le Burkina Faso, ça s'approche de 50% entre le produit, le riz local et le riz importé.
Et en termes de prix ? Le riz local au Burkina ?
Et le riz local au Burkina a diminué, mais encore plus cher que le riz. Alors moi, j'ai les prix
En même temps, il faut savoir de quelle catégorie de riz on parle, parce qu'il y a plein de catégories.
Tout à fait. Quand on dit riz, en fait, on a l'impression qu'on parle de plusieurs riz, mais quand vous allez chez n'importe quel détaillant à Ouagadougou, vous allez avoir du riz qui est extrêmement valorisé, qu'on va pouvoir appeler, par exemple, le riz américain, même s'il vient de Chine, ou le riz Oncle Sam, même s'il n'est pas produit par l'entreprise Oncle Sam. Et on a des riz qui sont de plus basse qualité, qui peuvent venir de différents pays, peut-être des mêmes pays, et qui vont coûter, par exemple, 350 francs CFA le kilo, alors que le riz Oncle Sam va coûter 700. Donc, il y a une marge très, très forte entre ces deux riz. Et c'est vrai que le fait d'acheter ce riz, eh ben, ça parle de la manière dont on se situe dans l'espace social, et notamment comme des populations globalement subordonnées. Par exemple, on parle beaucoup de Malo Denkasa à Bobo du Lasso, c'est-à-dire le riz, on a beaucoup d'enfants, c'est le riz que quand on est pauvre et qu'on a beaucoup d'enfants et de bouches à nourrir, on va acheter plutôt que le riz américain qui, lui, sera le riz des riches.
Ce riz-là, c'est un riz qui gonfle beaucoup, donc qui donne une impression d'être, de produire une grosse quantité dans l'assiette,
hein. Alors, souvent, le riz... oui, souvent, je faisais beaucoup d'entretiens sur la perception des goûts des différents riz, et je demandais parfois à mes interlocuteurs ou mes interlocutrices, pourquoi vous ne consommez pas du riz local est-ce que vous consommerez du riz local s'il était au même prix? Et beaucoup me disaient, le riz local, le problème, c'est qu'il ne gonfle pas. Et pourquoi? Pour une réalité physique, c'est que la plupart du temps, le riz local est consommé un an après sa récolte, donc est plus chargé en humidité, et donc effectivement gonfle beaucoup moins, que le riz importé qui, lui, a été stocké pendant 2 ou 3 ans dans les entrepôts, est moins chargé d'humidité, et qui, de fait, gonfle plus. Ce qui parle aussi de l'attente qu'on a de ce riz quand on est pauvre, c'est pas seulement d'avoir un bon goût, mais aussi de nourrir sa fonction
nutritionnelle. Le riz local, bien qu'un peu plus cher que le riz importé, aujourd'hui, le consommateur s'y retrouverait mieux avec du riz local, ou pas d'ailleurs?
Je pense que les choses...
En termes de, pour se nourrir.
Oui, je pense que oui d'abord, mais je pense aussi que les perceptions, en tout cas dans les pays que je connais, les perceptions populaires par rapport au riz local sont en train d'évoluer.
Est-ce que, alors vous nous disiez, ces révoltes contre la vie chère sur le continent africain pourraient tout à fait se dérouler ailleurs. On a coutume de dire que les ménages africains sont peu endettés par rapport à des ménages sud-américains où on achète beaucoup de denrées alimentaires à crédit. En réalité, c'est vrai aussi qu'en Afrique, les banques prêtent pas, hein, de toute façon, pas beaucoup. Donc, est-ce que aujourd'hui, avec le crédit parallèle et informel, avec des taux d'usure qui sont assez incroyables, Jeune Afrique a publié une enquête là-dessus la semaine dernière, on peut avoir des taux d'usure à 30%, des taux d'intérêt à 30%, bien que ce soit tout à fait illégal. Est-ce que aujourd'hui les ménages africains, du fait de l'augmentation des prix, pourraient se retrouver étranglés par des crédits?
En tout cas, moi, dans les villes où je vis, c'est une réalité qui est présente, le crédit. Est-ce qu'elle est plus présente qu'autrefois? Je pourrais pas l'affirmer, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est extrêmement présent et qui est aussi source de colère possible, évidemment.
Le pragmatisme des marchés économiques aujourd'hui, est-ce que c'est conciliable avec les attentes politiques des populations, finalement? Parce qu'on a bien vu que toute cette question des prix était une question très politique.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le pragmatisme des marchés, justement. Je dirais qu'il y a tout un discours de réalisme comme quoi les choses ne peuvent pas être différentes parce qu'il y a cette réalité des marchés. Et finalement, ce qu'on appelle le réalisme, quand les gens se mettent à casser tout, le réalisme, c'est de faire en sorte qu'ils ne cassent pas tout, en fait. Quoi.
Ça sera le mot de la fin. Merci Vincent Bonnecaze, en tout cas, pour vos explications, spécialiste du coût de la vie à Sciences Po Bordeaux. Demain, 7 milliards de voisins, on sera en direct au salon VivaTech pour célébrer la tech africaine, et surtout, on sera en direct avec un invité de marque, Tiken Jafakoli, rédacteur en chef de l'émission. À demain.